Europe 1, en balade avec Salomé Lelouch, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Salomé Lelouch que nous partons en balade aujourd'hui. Comédienne dès son plus jeune âge, elle apparaissait déjà bébé dans Vive à la vie, le film de son père Claude Lelouch. Salomé Lelouch est auteur de théâtre, metteur en scène, productrice. Elle dirige depuis 15 ans le théâtre le plus haut perché de Paris, à Montmartre. C'est au Théâtre de l'Œuvre, rue Clichy, un théâtre dirigé par François-Xavier Demaison, où se jouera bientôt sa dernière pièce, Politiquement correcte, qu'elle nous a donné rendez-vous. Elle se trouve là, justement, avec François-Xavier Demaison.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Salomé Lelouch. Frédéric Taddeï.
Nous voilà dans le Théâtre de l'Œuvre, où se tiennent dans l'entrée François-Xavier Demaison.
Bonjour, comment allez-vous ?
Nouveau propriétaire et Salomé Lelouch. Bonjour Salomé.
Bonjour.
Alors, vous êtes content d'avoir acheté ce théâtre ?
Ben écoutez, oui, c'est une belle aventure depuis 2 ans et demi avec mon associé Benoît Lavigne.
Qui est metteur en scène, lui.
Qui est metteur en scène. Et c'est vrai que c'est, oui, c'est ça. C'est un acteur et un metteur en scène qui sont aux manettes de ce théâtre depuis 2 ans et demi. Et je crois qu'on a une programmation qui plaît, en tout cas, puisqu'on a doublé la fréquentation en 2 ans.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez multiplié les spectacles ?
Non, je pense qu'effectivement, la programmation est riche, mais il y a aussi, je pense, un public et des gros succès. On a fait des gros succès. Par exemple, Romain Frayssinet, qui est en ce moment à l'affiche, il est complet jusqu'à fin mars. Donc, c'est quand même des gros succès.
Voilà. C'est Salomé Lelouch qui a, elle aussi, racheté son théâtre, hein, maintenant.
Tout à fait, c'est la plus... On s'est dit, on va racheter le théâtre cette année.
C'est ça.
C'est cette année aussi, vous avez fait de gros travaux dans ce qui était autrefois le ciné-théâtre 13, qui est devenu le théâtre Le Pic.
Tout à fait, voilà. Des travaux surtout pour les acteurs, c'est-à-dire pour le transformer le cinéma en théâtre. Après, j'ai conservé l'âme et l'esprit du lieu, donc j'ai restauré et fait des travaux vraiment essentiellement dans les loges, les parties communes et le plateau et les fauteuils.
C'est un théâtre que vous dirigez depuis 15 ans maintenant, non ?
J'ai la programmation artistique depuis 15 ans. Je le connaissais bien, oui.
Donc, on va beaucoup parler théâtre.
Parlons théâtre,
lors
Frédéric.
De cette balade, faites-nous visiter le,
écoutez,
le
avec
théâtre.
Écoutez, avec joie, un théâtre que connaît bien Salomé, à double raison. Elle y a fait un succès comme metteur en scène, avec justice. Ça a été...
Oui, ça a tenu quoi, 2 saisons, au moins ?
Oui, de janvier à fin décembre. Entrons dans le Théâtre de l'Œuvre, 336 places.
Voilà, toute voilà. Rouge. Toute rouge.
Un écrin.
C'est là que j'avais vu Scène de la vie conjugale avec Laetitia Casta.
Et Raphaël Personnaz.
Il est impressionnant parce que c'est un des seuls théâtres de Paris où il y a plus de place au balcon qu'à l'orchestre.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Il est tout rouge, avec des petites ampoules. C'est un théâtre qui date de quand, fin 19e ?
Oui, exactement. C'est Lugnepo et Antoine qui sont les deux pionniers du théâtre privé à Paris. Lugnepo a transformé cette salle de musique, salle Berlioz, en un théâtre privé, dans le sens où on ne l'entendait pas encore à l'époque. Voilà. Et c'était des théâtres de création, où il y a eu beaucoup, beaucoup de créations de jeunes auteurs.
Il y a l'annonce Fête à Marie, je crois, de Claudel, c'est ici.
Voilà, Uburoy, qui a été créé ici, d'Alfred Jarry.
Ah non, je regrette. Uburoy a été créé par la troupe du Théâtre de l'Œuvre, mais au Théâtre de Paris, rue Blanche.
Bon, alors écoutez, Frédéric Taddeï, je vous aime beaucoup. Mais voilà, hein.
C'est vous qui avez raison.
Des animateurs cultivés, c'est
là juste avant, alors que
c'est
toi
agaçant,
non.
Quand même.
Je me trompe pas alors.
Non, vous avez raison, vous avez raison.
Mais c'est vrai que c'était la troupe. C'était
voilà, ils répétaient ici, on va dire.
Ouais.
Hein, vous êtes d'accord avec cette version.
Donc ça m'a d'ailleurs toujours amusé parce que je crois qu'ici ça s'appelle l'Ubu Café, le bar du
oui.
Théâtre. Et je suis toujours demandé s'ils savaient que ça n'avait pas été ici.
Alors on a quand même mis une affiche en bas parce que effectivement c'est la troupe du Théâtre de l'Œuvre qu'on voit bien s'inscrire dans la convivialité de ce petit bar.
Il faudrait appeler le bar le Marie Bar, à cause de Claudel.
C'est ça. Écoutez, on va y penser. En tout cas, vous êtes cordialement invité à venir déguster les spécialités.
Enfin, il est très, très beau, hein, ce théâtre. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'air trop impressionnant quand on est sur scène.
C'est vrai. Il y a un rapport scène-salle qui est assez exceptionnel. Et il y a le gros plan du cinéma. C'est-à-dire que le spectateur, même du 4e rang, 5e rang du balcon, a l'impression vraiment d'être en prise avec l'acteur.
comment ça s'appelle, cette forme de théâtre-là? Ça a un nom particulier, ça n'est pas un théâtre à l'italienne?
On va dire à l'anglaise.
Ah oui?
Oui. Vous avez peut-être une version un peu plus précise?
Non, je ne sais pas du tout. Donc, quand je pose des questions, je ne connais pas la réponse. Et vous, Salomé, aucune nostalgie de... quand vous étiez comédienne?
Aucune, absolument aucune. Je suis ravie d'être... J'avais vécu des moments très durs sur la scène du Théâtre de l'Œuvre, justement, il y a 15 ans, avec un spectacle qui s'appelait Un baiser, un vrai, avec Michel Duchossois. Et c'est dans ce petit escalier là-bas que j'ai décidé de ne pas être comédienne. Je suivais Duchossois un dimanche en matinée qui descend et qui font « Oh, ils étaient chiants cet après-midi, je ne me suis pas amusée ». Et là, j'ai pris conscience que je m'éclatais en répétition, en mise en scène, en écriture, et que comme comédienne, c'était une plaie d'aller sur scène. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, je suis arrivée en Belgique, j'ai dit, je vais arrêter, j'avais à peine 20 ans. Hein. J'ai dit, je ne suis pas faite pour ça, je ferai autre chose. Dans ce théâtre, donc, il est important aussi pour moi.
Vous le saviez mais...
Écoutez, je sais que Salomé avait eu une expérience, mais pas aussi précisément.
Pas que ça s'était passé, ce renoncement.
Non, c'est génial, au contraire, c'était le début d'une vie qui me plaisait, ouais. Au contraire.
Et là, vous êtes devenu metteur en scène, auteur. Et l'idée de diriger un théâtre, ça vous est venu quand?
Ça, c'était en même temps. J'avais déjà commencé à faire la programmation ce jour-là. Je faisais ma première mise en scène. Et c'est parce que j'étais en train de faire ma première mise en scène, justement, et que je prenais un plaisir énorme, qui était un spectacle pour enfants. Et qu'en même temps, je souffrais vraiment sur le plateau du Théâtre de l'Œuvre. Et ensuite, quand je suis revenue ici 15 ans après, ben, en tant que metteur en scène, j'ai vraiment été heureuse. Non, là-dessus, j'ai aucun regret, aucune hésitation.
Et vous vous avez décidé de racheter un théâtre pour quelle raison? Parce que tout le monde dit que c'est un puits sans fond.
C'est un rêve d'enfant. Ah bon? En fait, oui. Je me sens bien dans un théâtre. Je me sens protégé dans un théâtre. C'est un lieu qui me rassure. J'aime profondément ce lieu et j'ai toujours rêvé de...
Pourtant, on dit que c'est un endroit qui coûte cher.
Oui, ça... c'est sûr que c'est pas, on n'a pas un théâtre pour s'enrichir, mais c'est un carrefour de talents qui est génial, quoi. On peut s'intéresser aux talents des autres et de temps en temps, quitter son nombril, c'est assez reposant
pour
l'acteur.
C'est pour ça qu'on multiplie les spectacles maintenant, parce qu'au fond, ça coûte très cher quand ça quand
oui,
c'est vide un théâtre. Hein,
exactement, exactement. Et puis, il faut être très, très exigeant à la programmation parce qu'effectivement, on n'a que 336 places. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit plein du mardi au dimanche. Voilà. C'est pas, on ne peut pas compter sur le week-end pour faire des grosses jauges.
Vous avez beaucoup joué au théâtre, vous?
Moi, assez peu. J'ai surtout joué tout seul sur scène. Ouais. J'y joue encore, d'ailleurs, en tournée. J'ai des projets de théâtre, j'adorerais. Pour l'instant, voilà.
Il paraît que la séance la plus dure, c'est celle du dimanche après-midi. On n'a vraiment pas envie d'y aller, celle-ci.
Bah, on est un peu fatigué, mais il y en a qui sont sympas. C'est vrai que celle-là, elle est un peu plus... Déjà, la moyenne d'âge est un peu plus haute. Et puis, il y a le samedi soir qui a souvent été un peu festif. Il y a les copains qui sont venus. On a bu des coups après. Voilà, et puis, on n'a pas ce rythme. On n'a pas ce rythme le dimanche. On joue toujours le soir. Et le dimanche, on joue en matinée. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus dur.
Après le déjeuner, en plus.
Oui, enfin, je ne prends pas non plus à l'enquête de veau.
C'est dur d'y aller, mais une fois qu'on y est, tout de suite, ça redevient magique. Enfin, une fois qu'on a passé les portes du théâtre, ça s'arrête.
Non, c'est d'y aller qui est dur, hein, il paraît.
C'est vrai.
Et le directeur se doit d'être là pour vérifier que tous les comédiens...
Écoutez, je pense qu'ils ont suffisamment de conscience professionnelle pour ne pas sécher, mais j'essaye d'y être le plus souvent possible, même si je fais d'autres choses à côté, vous le savez.
Europe 1. Eh bien, on va se retrouver dans un instant. On continue notre balade dans le Théâtre de l'Œuvre avec François-Xavier de Maison et Salomé Lelouch.
Tadei et Salomé Lelouch continuent leur balade au Théâtre de l'Œuvre, le théâtre de François-Xavier de Maison. Et alors, on a justement le droit à une visite par le maître des lieux en personne.
Eh bien, Frédéric, je vous emmène dans les loges. Nous allons descendre l'escalier.
Le fameux.
Le fameux, on l'avait fait.
Le fameux escalier où Salomé a renoncé à sa carrière de comédienne.
Alors, vous avez ici une chaise qui servait à faire monter Robert Hirsch avant de s'envoler.
Ah oui, c'est une chaise pour pas qu'il ait à monter les marches.
Il avait créé ça et ça avait été un moment magique. Écoutez, c'est un bordel sans nom. James, on est en pleine émission de radio. Comment vas-tu?
Bonjour.
Ça va, tu vas bien? Il y a de l'ambiance dans les,
ouais.
Dans les loges du Théâtre de l'Œuvre. James, notre régisseur.
Bonjour James.
Directeur technique.
Comment ça va? C'est là qu'on bricole.
On bricole bien, on se passe bien. Dans la
bonne ambiance. Très bien.
C'est un atelier ici.
C'est génial ici, c'est l'antre de Corinne, l'âme du lieu.
C'est ça.
C'est là qu'on fabrique les accessoires, le décor.
Non, quand même pas.
Non.
C'est là qu'on répare les accessoires et le décor.
C'est un peu chez le Spoons, en fait.
Il y a un peu de ça. Mais je pensais pas qu'il y avait autant d'ambiance en journée.
Vous ne venez jamais. Ici, on est plutôt chez l'habilleuse.
C'est ça, c'est l'habilleuse, c'est Corinne, l'âme du lieu. On va descendre maintenant dans les loges, puisque là, c'est vraiment les aspects techniques. On va chez les comédiens maintenant.
On peut passer par là, si tu veux.
Ah oui, on peut.
Elle connaît un passage plus rapide.
Je connais mieux ton théâtre que toi.
Non, mais je sais qu'on peut passer par là, mais je ne sais pas.
Tout est rouge hein, au Théâtre de l'Œuvre. Là, les marches sont rouges, la moquette est rouge.
J'adore ces recoins.
Et nous voilà dans les loges, à côté de l'Ubu Café, en fait.
Voilà, exactement.
Avec des affiches, donc de l'annonce faite à Marie. Là, c'est avec Daniel Delorme, donc ce n'est pas la création, c'est un peu plus tard.
La grand-mère de mon ami Hugo Gélin.
Et des affiches de Monsieur Klebs et Rosalie avec Michel Bouquet, de Virage dangereux, de La logeuse. Très, très vieilles affiches.
Hein. Ici, c'est le lieu de tous les stress, de toutes les notes, de toutes les angoisses. On sort de scène, on saute sur les acteurs pour dire ça va pas, faut pas le faire comme ça. Ici, c'est passé plein de trucs. Ici, c'est la pièce intéressante, si les murs pouvaient parler, je pense.
Les notes, c'est ce que le metteur en scène, généralement, prend pendant qu'il regarde le spectacle et il en fait la lecture au comédien ensuite. Hein. C'est une sorte de mauvais moment à passer.
Tu fais beaucoup de notes, toi ?
Ah, pas mal, pas toi ?
Moi, je ne mets pas en scène.
T'en donnes. Ouais, moi, j'en fais pas mal quand même.
On m'en donne des notes.
Qui ose vous en donner alors que
les gens que je paye pour ça.
Et qui vous corrige ?
Qui me donne des notes, des bonnes notes généralement.
Oui, mais y a pas que c'est pas que pour dire que c'était pas bien, c'est pour dire ça c'est mieux, garde-le comme ça,
ça
pousse-le, ça ce soir, attention quand tu vois que ça a marché, le fais pas comme ça derrière, fais-le que si. Enfin, c'est plus général que juste c'est bien ou c'est pas bien.
Et ça n'arrête jamais, c'est-à-dire que si quand ça dure deux saisons, votre spectacle Justice dure deux saisons, vous êtes là tous les soirs à faire des notes.
Au contraire, parce qu'en fait, quand ça dure deux saisons, vous venez plus au bout d'un moment ou plus trop, et si vous venez pas une semaine ou 10 jours, ils décalent les acteurs. Et donc ils se rendent pas compte. Alors c'est bien parce qu'ils créent des choses, vous êtes plus là, ils sont contents, vous êtes plus là, ils prennent des libertés qui leur font monter un cran dans le jeu. Et le stade d'après, c'est de redécaler. Donc, il faut revenir pour dire, tout ce que tu as trouvé quand j'étais pas là, ça marche, mais ça marche pas.
Une main de fer, une poignée de fer.
C'est... Et dans un one-man show, quand on se décale tout seul.
On se décale tout seul.
Personne ne vous retient. En fait.
Si, j'ai un metteur en scène, Eric Théobald, qui d'ailleurs a mis en scène également Richard Berry dans Plaidoiris, qui a remporté un gros succès cet hiver. Si, au contraire, il faut un interlocuteur, il faut un œil extérieur, sinon, et puis on devient fou au bout d'un moment, tout seul sur scène, en tournée, comme ça.
Politiquement correct, donc la pièce de Salomé qui va de nouveau être jouée ici à partir du 22 février, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà, nommée aux Molières l'année dernière, gros succès, on est très très heureux de l'accueillir ici avec une distribution légèrement modifiée.
Il y a la distribution d'origine et il y a eu plusieurs distributions, ils vont jouer en alternance.
Et pourquoi alors reprendre cette pièce-là ? On peut se dire qu'elle avait fait sa carrière, elle avait eu beaucoup de succès déjà.
Parce que nous sommes un théâtre et que notre vocation est de jouer des spectacles et oui, des bons.
On se dit toujours, voilà, est-ce qu'on préfère créer quelque chose de nouveau ou reprendre une pièce
Alors les deux, parce qu'aujourd'hui il y a une ligne éditoriale au Théâtre de l'Œuvre qui est de travailler avec les gens qu'on aime, voilà. Moi, quand j'ai programmé Isabelle Carré, ou Manu Payet, Laurent Chalumeau, c'est des gens que j'aime, qui sont mes amis. Et donc, du coup, ça a été un premier critère de choix, de sélection. Ensuite, après le succès qu'on a fait et le plaisir qu'on a eu avec Salomé, forcément, elle est à la maison, quoi. Donc, elle dit, j'ai envie de reprendre Politiquement Correct. Welcome.
Mais alors, c'est drôle, parce que Politiquement Correct avait été écrit avant les élections présidentielles. C'est une pièce qui se passe pendant les élections présidentielles, qui ont eu lieu maintenant. C'est la rencontre d'une jeune femme avec un type dont elle tombe amoureuse, qui se révèle être un militant du Front National, qui va être au second tour donc, de la présidentielle. Là, vous avez dû changer un peu le texte.
Un peu, mais assez peu. La seule différence, c'est qu'avant, en tout cas dans l'esprit des gens, ça se passait pendant les élections de 2017, or que rien dans le texte ne laissait supposer que c'était les élections de 2017. C'était entre deux élections présidentielles.
Entre deux tours.
Voilà. Et beaucoup de gens disaient que la pièce serait obsolète. Elle s'est jouée à Paris que avant les élections parce qu'on pensait qu'elle allait devenir obsolète. Et puis, en fait, elle s'est reprise en urgence au Festival d'Avignon suite à un désistement. Elle a mieux marché qu'à la création. Elle est partie en tournée pendant 2 ans et on s'est rendu compte qu'en fait, elle vieillissait pas malgré le fait que ce soit plus les élections et que pour les gens, c'est plus les élections de 2017, c'est des élections. Et là, c'est un retour de tournée. Ils avaient un créneau, surtout c'était les élections, comme il va y avoir les européennes. On s'est dit, tiens, c'est 40 dates pendant la campagne des européennes. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas absurde de revenir la jouer à Paris.
Est-ce que vous mettez votre nez dans le texte, dans la mise en scène?
Absolument pas.
Le spectacle que vous montez ici?
Absolument pas. Absolument pas. On fait confiance à des artistes. Alors, de temps en temps, oui, Benoît, qui est metteur en scène, va donner une opinion. Moi, je vais donner une opinion sur une répétition, un filage sur Justice, par exemple. Je sais que j'ai vu le spectacle 2-3 jours avant la première et j'ai plutôt insufflé une bonne ambiance que du doute.
Il n'est jamais arrivé qu'au moment où vous voyez le spectacle qui va être créé, vous disiez « Oh là là, ça n'a jamais marché, ça ».
Oui, mais je ne vous dirai pas sur lequel, bien sûr.
Tu avais raison.
Oui, tout à fait. Excellent diagnostic. Un peu trop tard, mais...
Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe?
On se plante et on rame.
Mais c'est grave.
Bah oui, c'est grave, mais c'est la vie. On prend des risques, on y a cru et puis voilà, on se plante. Mais bon, la majorité des spectacles qui ont été joués ici ont remporté un succès, donc c'est quand même génial que ce soit Scène de la vie conjugale, Manu Payet, Romane Fraissinet, Justice, que ce soit effectivement des séries plus courtes comme Jean-Louis Aubert qui est venu nous faire 4 concerts.
Oui, parce que vous avez rouvert la salle Berlioz, qu'elle était au départ, la musique.
Exactement, Thomas Fersen, Jean-Louis Aubert, Didier Lockwood, et puis on a eu aussi Charlotte Rampling et Sonia Viedder-Atherton pour des spectacles un peu plus, oui, iconoclastes, quoi, un peu plus barrés.
Vous êtes là tous les soirs
Non, absolument pas. Je suis en tournée, j'ai Benoît qui est là, on a Kim Poignant qui dirige le théâtre aussi avec une main de fer, et on se complète. On fait bien entendu que je ne suis pas là tous les soirs. Par contre, parfois, je suis derrière le bar, et là, ça fait très, très mal.
C'est vrai que je vous y ai vu un jour, je me souviens. Ben, merci, François-Xavier de Maison. On va partir en balade avec Salomé Lelouch. On a rendez-vous avec vos comédiens, avec Thibaut de Montalembert, qui depuis est devenu très célèbre avec 10%. Hein. Quand il avait créé la pièce, il était beaucoup moins.
Europe 1. Il avait fait la première saison, mais ouais. Il n'avait pas encore le succès de la deuxième.
À bientôt.
Revenez nous voir, Frédéric, vous êtes le bienvenu.
2018.
On retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et Salomé Lelouch dans le 9e arrondissement de Paris.
Nous sommes en train de descendre la rue de Clichy avec Salomé Lelouch qui nous racontait il y a un instant comment elle avait renoncé à être comédienne au Théâtre de l'Œuvre dont nous sortons. Avant cela, vous aviez fait une carrière extrêmement jeune puisque je crois que votre père, Claude Lelouch, vous a filmé, vous aviez 2 jours.
Tout à fait, vous êtes très très bien informé.
C'était dans Vive à la vie.
Voilà, avec Michel Piccoli.
Voilà, et vous jouiez un bébé. Après, vous avez joué la petite fille, puis une autre petite fille, une adolescente.
Oui, on voit bien que ce n'est pas une carrière, c'est un jeu d'enfant pour rater l'école et ça m'a beaucoup appris. Hein.
Et ça vous a permis vraiment de beaucoup rater l'école?
Ah oui, c'est énorme. Ah ouais, parce que je ne tournais pas qu'avec mon père, je tournais 1 ou 2 films par an. J'arrivais à gratter au moins 2 ou 3 mois d'école par an. C'était énorme jusqu'à 18 ans.
Moi, je vous avais trouvé formidable dans Tout ça pour ça.
Tout à fait.
Vous aviez une vraie présence. Vous étiez très, très drôle. Il faut dire que vous jouiez la fille de votre mère, Evelyn Wicks. C'est peut-être ça qui vous aidait à être si à l'aise.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je crois que j'avais pas du tout envie de tourner avec elle. Et je crois qu'il y a un plan, il l'a gardé dans le film, où je la pousse du cadre. Je la pousse comme ça. En vrai, maintenant que je me refais le film, à l'époque déjà, j'avais très envie de raconter les histoires, moi, d'être derrière, de décider. J'avais déjà très envie de maîtriser un peu la situation.
Moi, j'ai toujours l'impression que c'est dangereux de mettre des enfants dans la position d'acteur, parce que ça les habitue justement à être traités avec beaucoup d'égards. Un, ils ont beaucoup de mal ensuite à retourner à l'école, et puis 2, ils ont encore plus de mal quand la vie leur réserve, au fond... autre chose que de devenir des vedettes.
C'est très dangereux parce qu'effectivement, vous êtes enfant, vous prenez la grosse tête très vite, très facilement. Moi, j'ai monté ma première boîte de prod, je l'ai appelée Petite Peste Production à cause de ça, parce que du coup, il y a quelque chose. Après, tout dépend comment les choses se font. Moi, j'ai eu énormément de chance de rencontrer à 16 ans dans ma vie la littérature, le théâtre, l'écriture, et de passer de ce côté-là où justement... Contrairement au cinéma, où vous êtes pris en charge, complètement pouponné, on vous retire tout sens logique et critique, on vous dit fais ci. Le théâtre, vous faites tout. C'est-à-dire qu'on faisait la régie, on construisait les costumes, on écrivait les textes, on construisait les décors. Voilà. Et ça a été l'énorme chance qui m'a sorti de ça et fait pouvoir décider que non, actrice, même si personne ne comprend quand vous dites je ne veux pas faire ça, les gens font non, mais si, tu vas y revenir. Non, mais si, personne ne m'a cru pendant des années. c'est vraiment voilà, le théâtre qui m'a permis de faire ce que j'avais envie. Et ça, je lui en serai éternellement reconnaissant.
D'ailleurs, il y a beaucoup de théâtre dans cette rue. Hein. On vient de passer devant la Grande Comédie. Un peu plus bas, il y a le Casino de Paris.
Pas très loin, il y a le Théâtre La Bruyère, où j'avais commencé. Il y a vraiment... Et là, il y a le Théâtre de Paris, juste dans la rue parallèle. C'est un des quartiers de théâtre avec Montparnasse. C'est l'autre quartier, le 9e arrondissement. Mais les gens ne savent pas forcément autant qu'il y a autant de théâtre...
Dans le 9e ?
Dans le 9e.
Autrefois, c'était ici qu'on faisait construire, au 19e siècle, c'est là que les riches faisaient construire leur maison de campagne. Vous savez, à l'époque, c'était encore... On appelait ça des folies.
Et d'ailleurs, le Théâtre de l'Œuvre, si ma mémoire est bonne... C'était un homme très amoureux qu'il avait fait construire pour sa maîtresse, qui était chanteuse. Ah oui.
Là, il y a le Casino de Paris devant nous. Ça rappelle Maurice Chevalier et Mistinguette. C'était une autre époque, hein.
C'était une autre époque et en même temps, il y a toujours ce genre de spectacle. C'est ça qui est chouette avec le théâtre, c'est qu'il fait des bonds intemporels incroyables dans la programmation.
Quand vous vous souvenez de vous, enfant, sur les tournages, est-ce que votre père vous faisait des notes ? Est-ce qu'à la fin de la journée, il vous disait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien ?
Mon père, c'est l'inverse du théâtre, c'est l'inverse de la répétition. C'est que de l'inné, c'est que du spontané, c'est que du maintenant, il n'y a pas du tout de répétition. Il ne m'expliquait même pas la scène, en fait. Il me disait, là, tu vas dire bonjour à tel, après, on voit ce qui se passe. Et moi, j'essaie d'avoir gardé de cette époque au théâtre. Évidemment, on répète, évidemment, les acteurs savent, mais de leur insuffler cette chose qui vient de l'improvisation et qui vient de la méthode que j'ai appris avec mon père et qui fait que du coup...
Méthode très célèbre, hein, puisque la méthode de Claude Lelouch, ce qui fait d'ailleurs que généralement, tous les acteurs sont géniaux chez Claude Lelouch.
C'est qu'il ne joue pas.
Oui, c'est sans doute ça. Vous ne jouiez pas, donc, en fond, vous.
Non. Non, non, sérieusement.
Hein. Oui. Et vous improvisiez ?
Oui, moi j'adorais ça. J'adore. Puis quand j'ai compris un peu plus tard, vers 8-9 ans, que justement, plus on sortait des clous, plus ça le faisait marrer, plus il fallait dire des choses qu'il ne fallait pas dire, j'y suis pas allée avec le bout de la cuillère. Hein. Ça m'a bien amusée. Et mon père ne pourrait pas faire du théâtre. L'idée de répéter, ça lui paraît complètement contre.
Oui, et puis d'avoir un texte aussi.
Oui, non, tout est absurde pour lui dans le théâtre, tout.
Et est-ce qu'il vient voir quand même vos spectacles ?
Oui, il vient toujours, il lit, il vient voir, il est... Voilà, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est marrant, c'est toujours cette question qu'il pose, il dit, mais tu t'as tout écrit toute seule ? Comme si ça, vraiment, que ce soit écrit en amont et seul et pas avec l'impro, c'était ce qui le fascinait le plus. C'est marrant.
Mais est-ce que vous êtes très regardante sur la façon dont on suit ou pas votre texte ?
Pas du tout, j'adore, c'est très écrit, c'est vrai, mais après justement, j'adore les répétitions pour aller voler aux acteurs tous les moments, tout ce qu'ils vont proposer, tout ce qu'on va rajouter, tout ce qu'on va faire au plateau. J'adore les répétitions, c'est la partie que je préfère au-delà de l'écriture encore et au-delà des représentations.
Eh bien, je vous propose de rendre hommage à Michel Legrand qui nous a quittés il y a peu avec une chanson qui s'appelle Paris Violon, vous la connaissez ?
Non, je ne la connais pas.
Elle est très jolie.
La rue de la Harpe et la contrescarpe à l'heure où le jour se fait vieux s'offre des musiques à plier boutique, des musiques à fermer les yeux. Les rues se changent en jardins, les marronniers en musiciens. Paris Verlaine aux sanglots longs, Paris ce soir se fait violon. J'ai ta chanson au cœur qui chancelle comme un ballon sur une nacelle. Paris violoncelle, sous les chansons que tu annoncelles, nous balançons. La balancelle qui donne son nom au bord de la Seine. Paris violoncelle, Paris joue dans celle, au cœur chante. chancelle sur les violons de tes violoncelles. Paris, violoncelle, Paris, néon, aux mille étincelles, Paris, chanson, au coin des ruelles, l'accordéon, ce soir, te fait belle.
C'était Paris Violon, interprété par Michel Legrand. Michel Legrand qui a tourné aussi dans les films de Claude Lelouch.
Tout à fait.
Vous l'avez rencontré ?
Oui, oui. Ah, moi, j'étais fascinée d'être devant le monsieur qui avait écrit Les Demoiselles de Rochefort. Ça, je trouvais ça vraiment incroyable.
À tout de suite avec Salomé Lelouch dans la rue de Clichy.
On découvre aujourd'hui les lieux préférés de la capitale de Salomé Lelouch avec Frédéric Taddeï. Et d'ailleurs, place d'Étienne d'Orves, il y a un édifice, mais alors là, qu'elle adore.
Nous voilà avec Salomé Lelouch, la hauteur en bas de la rue de Clichy, à la hauteur de l'église de la Trinité. Vous aimez les églises, Salomé ?
J'adore les églises, j'aime beaucoup, beaucoup les églises, j'y vais souvent.
Il paraît que vous êtes converti au catholicisme à un moment, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, quand j'avais 13 ans.
C'était un peu comme Claudel, alors... Oui, ça lui est arrivé à Notre-Dame. Vous, ça vous est arrivé où ?
Ça m'est arrivé en Normandie. Et en fait, j'ai toujours été... j'étais croyante et mes parents m'avaient dit « Tu choisiras ta religion quand tu voudras. On ne baptise pas, on n'impose rien. » Et à 13 ans, j'ai dit « Voilà, ça y est, j'ai choisi, je vais être catholique. » Et ils sont venus au baptême, j'ai fait ma confirmation, j'ai tout suivi.
Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie d'épouser la religion catholique ?
Je me sentais bien dans les églises. J'avais rencontré une famille de gens chez qui je passais beaucoup de temps, qui allaient régulièrement à l'église et qui parlaient de la religion avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humanité. Et je trouvais rassurant le rituel et la tradition. Après, même à 13 ans, c'est pas comme si j'avais la révélation sur Jésus. Ou sur quoi que ce soit des textes, c'était plus une ambiance, une tradition. Il y avait quelque chose de traditionnel, moi qui n'avais aucun cadre et aucune tradition dans ma vie de tous les jours, qui était complètement bordélique. Je pense que le cadre qu'apportait cette religion-là à ce moment-là m'a attirée.
Et c'était les orgues aussi les vitraux,
les orgues, les textes, les psaumes, le temps, le recueillement, tout le cadre. C'était aussi cette famille qui m'a fascinée, cette famille de militaires complètement à l'ancienne qui en pleine fin du XXe siècle vivait comme 100 ans auparavant et qui était iconoclaste, avait des idées décalées mais fines, traverser le monde. J'étais complètement fascinée et puis surtout les règles, toutes ces règles qu'il y avait. On peut faire ça, ça, on ne peut pas le faire. J'adorais qu'il y ait des réponses, des oui ou des non. Là où moi, dans ma vie, il n'y avait que des « tu peux faire ce que tu veux »,« oui, peut-être », »,« tout est possible ». Voilà, je pense qu'il y a un âge où on a besoin de ces barrières et je suis allée les chercher toute seule. Et j'en suis revenue toute seule.
Voilà, ça vous est passé ensuite
J'ai gardé quelque chose de mystique. J'aime toujours les églises, j'aime les synagogues, j'aime les mosquées, j'aime les lieux sacrés, j'aime l'histoire, mais j'adore l'Égypte, alors que c'est vraiment, j'adore le Luxor, qui est pourtant ni l'un ni l'autre. J'aime ces endroits, ce passé, l'histoire. J'ai gardé ça, j'ai gardé le fait de pouvoir me recueillir. Je suis plus dans un culte. Je suis sortie des
cultes. Et là, vous savez qu'on est devant un lieu sacré, puisqu'il s'agit du square de la Trinité. Et la bande du Square de la Trinité, c'était Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc.
C'est une autre Trinité.
Voilà. Et c'est dans ce square qui s'étend devant nos yeux, qui se retrouvaient le soir quand ils étaient adolescents. J'imagine que vous les avez connus aussi.
Oui, tout à fait.
Oui, puisque Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ont joué ensemble, me semble-t-il, un film de Claude Lelouch. Mais là, vous étiez plus sur le tournage.
Là, non,
vous
là, c'est grand. Fini, je m'étais enfuie déjà.
On va retrouver Thibaut de Montalembert et... Comment s'appelle-t-elle
Ludivine de Chastenay.
Ah, vous avez un truc avec les aristocrates.
Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas fait le rapprochement.
Eh oui, vous leur avez donné rendez-vous là, dans ce café où... La bande du Square de la Trinité devait avoir ses habitudes.
Ah ben, je les vois. Ah, zut, il s'est rasé. Ça m'embête beaucoup. Je voudrais qu'il ait la barbe pour le spectacle.
Ah oui, ça s'appelle Le Poc Café. On y rentre. On s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Salomé Lelouch sur Europe 1.
Frédéric Taddeï emmène Salomé Lelouch en balade jusqu'à midi et demi. Et pour leur pause dans un café, ils ont été rejoints par deux personnes très importantes pour la comédienne.
Nous sommes à l'Upper Café, 5 rue de Clichy, face au Square de la Trinité, où Salomé Lelouch a retrouvé Thibaut de Montalembert et Ludivine de Chastenay, qui sont les deux interprètes de la pièce Politiquement Correcte, donc, qu'ils joueront à partir de la fin du mois de février.
Pas les seuls interprètes, interprètes, ils sont 5 sur scène, 5.
2 des 5, pardon, oh non, la vache.
C'est la guerre.
Et donc, je lui ai remarqué deux aristocrates, comme elle venait de me raconter sa conversion au catholicisme, je me suis dit que tout ça avait peut-être un sens. Non ?
Ah ben ça,
c'est le hasard.
C'est le hasard. Dans quel sens ça pourrait avoir un sens ?
Bah, le catholicisme, l'aristocratie. Je vous rappelle que vous jouez dans Politiquement Correct un militant du Front National, lui-même catholique.
Un
peu monarchiste.
Mais comme tu le dis dans la pièce, catholique, pas catho.
Exactement.
Quelle est la différence d'ailleurs ?
Alors les cathos sont...
Coincés, mal habillés,
les catholiques sont des gens ouverts et raffinés. Voilà. Et voilà.
Je disais à Salomé que quand vous avez créé cette pièce en 2016, vous étiez beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. 10% vous a rendu très célèbre.
Ça a fait monter le curseur un peu, oui.
Parce qu'on vous a vu beaucoup au cinéma, énormément au théâtre, mais la télé tout de suite c'est le grand public.
Bah oui. Oui, mais ça, c'est certain que du jour au lendemain, c'est-à-dire d'un soir à l'autre, c'est 0 et 9 millions. Ça fait beaucoup de différence. Oui.
Mais Salomé et moi, quand on a su que Thibaut avait accepté, on était très, très, très heureuses. Pour nous, on voulait Thibaut parce qu'on le connaissait du théâtre. Voilà.
Ludivine de Chastenay, je vous ai vu dans Comment devenir une mère juive en Dilson.
Oui.
Je crois que
alors 1667 fois.
Voilà, ça c'est
pas
dingue,
étonnant que je l'ai vu.
Non,
un jour ou l'autre.
Bah, je suis ravie.
C'est quand même assez nombreux.
Ça vous avait plu ?
Oui, ça m'avait beaucoup amusé de savoir que c'était une aristo qui jouait la mère juive.
Ça a été une vraie question. Mais dans le texte et sur le contexte, ma grand-mère était à peu près comme une mère juive. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé.
Maintenant tu joues une marxiste comme quoi ?
Voilà, maintenant je joue une marxiste féministe.
Et alors cette pièce, pourquoi vous plaît-elle tant que ça ? C'est pas seulement par amitié pour Salomé Lelouch.
Non, on se connaissait pas. Non, mais parce que j'ai trouvé que, alors au moment où ça a été monté, c'était entre les deux tours. Oui, parce qu'on parlait que de ça, parce que les gens dans la salle ne parlaient que de ça. Que voilà, il y avait un truc qui était assez insolent par rapport à. Le fait de jouer un personnage comme ça, je trouvais ça assez insolent.
Et la peur était palpable, en plus, les gens...
Mais ce qui était insolent aussi, c'est de jouer un militant du Front National...
Sympathique.
Qui n'était pas foncièrement désagréable, qui était même sympathique et séduisant.
Ouais. C'était perturbant. Ouais. C'était perturbant et ça crée de la question, ça crée du questionnement. Ça en crée toujours, d'ailleurs. C'est pas fini.
Est-ce qu'il y avait des sympathisants du Front National qui sont venus voir la pièce, Salomé Lelouch ?
Oui, tout à fait.
C'était palpable, même dans le public. Il y a des représentations où on sentait bien les réactions.
Il y a tout un débat dans la pièce à un moment donné, parce que voilà, ça tourne autour du pot, il sait pas. Il y a toute une partie très comédie, un peu comme ça, à la Fedo, elle lui cache qui il est, puis finalement, le poteau rose explose. À ce moment-là, il y a quelque chose d'assez frontal que j'ai pas voulu éviter, qui est vraiment le débat où tout le monde avait dit « Mais non, mais pas un ongle là-dedans, tu vas voir, tu t'en sortiras jamais. » Et ce moment-là, dans la salle, on sent, parce qu'il y a tous ceux qui retiennent leur souffle en disant « Non, mais ils osent pas dire ça. Ah, ouf, ils ont dit ça. Ah merde, mais là, ils vont pas dire ça. » Et la salle change d'avis, on le sent dans la salle. C'est très jouissif
c'est
quand
génial.
On est dans la
à
salle.
Jouer, c'est génial.
Les gens se demandent comment ça va se terminer, ce qu'on veut dire par là et jusqu'où on veut aller. Moi, j'ai eu des gens, des amis qui m'ont dit en sortant « Mais t'as pas le droit de faire ça, de mettre quelqu'un comme ça sur scène, c'est pas possible. » Je dis « Mais ça existe, mais on peut pas le mettre sur scène. » À l'inverse, des gens qui disent « Ah bah, c'est génial, enfin quelqu'un qui ose dire des choses, c'est dommage cette fin ou à la fin vous redevenez politiquement. » Donc en fait, c'est marrant parce que les gens ne parlent pas de la pièce, ils parlent d'eux. Et quand ils parlent de la pièce, ils parlent de leurs opinions politiques à eux. Et ça, c'est passionnant pour nous.
Bien sûr.
Et même sur scène, à jouer quand, pour les acteurs,
mais
c'est vraiment très, très drôle.
Mais ça joue aussi, la pièce a le courage de jouer sur quelque chose qui est qu'on a diabolisé les gens du Front National et que parmi eux, il peut y avoir quelqu'un finalement de séduisant et de sympathique. Ce que peu de gens ont envie d'entendre, au fond.
Oui, il y a une phrase du spectacle qui dit, où Mado dit, il faut se méfier du nouveau visage
Mado,
du Front.
Mado, c'est vous. Hein,
non,
voilà. C'est
non, Mado, moi, je suis Andrea, justement.
Andrea, oui.
Elle, c'est la bonne copine qui marque. Bah, parce qu'en fait, ils ont chacun quelqu'un de plus extrême qu'eux. Ils se rencontrent. Et puis, lui, il a un ami qui est beaucoup plus extrême que lui dans l'extrême droite. Et Mado, qui est plutôt une bobo de gauche, a une amie plutôt type marxiste, qui veut surtout pas qu'on la confonde avec les communistes.
Et féministe.
Oui, mais pas n'importe comment. Enfin, voilà, tout ça est très précis dans ce qu'ils veulent les
uns
les autres.
C'est marrant, ça vous intéresse tant que ça, la politique ?
Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que... C'est... Oui, je suis passionnée, je regarde les débats, j'aime beaucoup. Mais ce qui m'a le plus, c'était pas tellement de faire de la politique. Parce que si j'avais voulu faire un tract contre le Front National, j'aurais fait de la politique, c'était pas la question. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre les gens et les personnages dans des situations cornéliennes et compliquées. Donc, de faire du théâtre, de la tragédie et de créer une histoire. Et de créer une histoire d'amour impossible. Donc, moi, j'aime tous mes personnages. Les 5 personnages que j'ai écrits, j'ai de la tendresse et de l'affection pour eux à un endroit. Sinon, je peux pas les écrire. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre les gens dans une situation. Ils font putain, mais qu'est-ce que je ferais à sa place ? C'est ça qui me plaît. Il se trouve que j'aime bien la politique que je suis et que je me suis servie de ce terreau-là et que voilà, il y a un écho et je suis ravie qu'il soit là. Mais au départ, c'est le théâtre et c'est l'humain et c'est comment la différence entre justement, on peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça dépend qui est en face de nous. Partout, il y a des gens formidables. Donc comment ça se transforme, comment ça se négocie, à quel moment on peut aller, pas aller. C'était du théâtre et c'était génial pour les personnages.
Mais après, il faut créer un militant du Front National, même un peu, il est un peu cadre du Front National dans
la pièce. Carrément cadre. Hein. Ouais. Oui, il fait partie cadre. Du.
Et en même temps, il aime bien Maxime Le Forestier, ça vous paraît compatible ?
Mais pourquoi pas, hein.
Mais je suis contente que vous ayez eu la référence sur Maxime Le Forestier parce que moi, j'ai exprimé Maxime Le Forestier et en Allemagne, comme Maxime Le Forestier ne doit pas être assez connu, ils ont transféré en Nana Mouskouri. Et là, tu dis, ah mince, c'est pas du tout la bonne référence.
Maxime Le Forestier. Quand même chanteur très à gauche, gauchiste au départ, et puis qui a chanté Né quelque part, on est tous nés quelque part, etc., qui était une chanson très anti-Front National au moment où elle était sortie.
Merci d'avoir eu la référence.
Eh bien, puisqu'on est juste devant le square de la Trinité, et comme je le rappelais à Salomé, c'est ici que se sont connus Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc quand ils étaient adolescents. Écoutons Johnny Hallyday comme un corbeau blanc. C'est une de ses plus jolies chansons, je trouve.
Be
C'était « Comme un corbeau blanc » interprété par Johnny Hallyday en 1973.
De 11h à 12h30, comme chaque dimanche, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï. Et aujourd'hui, il est accompagné de Salomé Lelouch.
Nous sommes toujours à l'Upper Café, 5 rue de Clichy, avec son sol à damier, ses banquettes de moleskine, ses murs en briques. On y sert des burgers et des tapas, des bières et des cocktails. Nous sommes avec Salomé Lelouch, avec Thibaut de Montalembert et Ludivine de Chastenay. Thibaut et Ludivine seront sur la scène du Théâtre de l'Œuvre à partir du 22 février dans Politiquement Correct, écrit et mis en scène par Salomé Lelouch. C'est le début des vacances scolaires, c'est un peu gênant.
Ah bah, nous, on préfère toujours quand ce n'est pas les vacances scolaires, c'est sûr. Donc, venez quand même.
Vous êtes rasé la moustache, non, Thibaut de Montalembert?
Oui, j'ai rasé un certain nombre de choses. Barbe, moustache, oui, bah oui.
Et pourquoi la moustache d'abord, pourquoi
la Non, mais d'abord, j'avais la barbe, pas la moustache. Parce que la moustache tout seul, quand même, c'est un peu rude. Hein, quand
oui,
même, hein.
Donc, j'ai pensé que ça aurait été pour un rôle.
Non, mais je me suis rasé pour un rôle, parce qu'en général, je ne me rase pas.
Donc, ça m'embête beaucoup, je le voulais avec la barbe sur scène, mais le cinéma gagne toujours sur le théâtre, c'est vraiment pénible.
C'est bien triste. Hein. Pourquoi préférez-vous avec la barbe?
Dans le personnage, je trouvais que c'était encore plus...
C'est-à-dire actuel. Que là, avec les cheveux courts, rasés, etc., le côté jeune cadre du Front National est plus envisageable, disons...
que quand il a la barbe.
Cheveux longs et barbus.
On prête plutôt la barbe au Parti Socialiste, en tout cas, voilà. Maintenant, c'est plutôt aux islamistes.
Oui, enfin, c'est... Ou Macron, d'ailleurs, parce que quand on regarde... Son mouvement, là, tous les députés de son mouvement.
Ils ont beaucoup
dans
de barbe.
Là, c'est insensé.
Mais au-delà du parti, les hommes politiques sont plus rasés. Donc, pour pas qu'elle pense du tout que c'est un homme politique, au-delà même du parti, voilà, je trouvais ça bien qu'il ait plus l'air d'un hipster.
Ouais, mais t'as vu le Premier ministre, il a changé
avocat.
La donne quand même.
C'est vrai, c'est bien. C'est d'ailleurs, on dirait pas que c'est un Premier ministre. Oui.
Est-ce que être de gauche et de droite, ça a encore un sens aujourd'hui pour une jeune femme comme vous, vous avez 35-36 ans, la gauche et la droite, on résonne encore dans ces termes?
Justement, d'où la pièce où on voit bien que c'est la fin de cette chose-là. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord quand ils disent c'est la gauche qui est passée, mais non, enfin, c'est pas la gauche. Enfin, si, c'est la... On voit bien que ça, on n'a plus les repères et on l'utilise, ça, beaucoup dans la pièce. Après, il y a quand même aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements et à l'époque, nous, les idées, en tout cas politiques, sont vraiment représentées et par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Il y a d'ailleurs quasiment pas de droite dans le spectacle. Enfin, le discours de la droite modérée, libérale est assez peu et très absent de la pièce. Et il y a la bobo de gauche qui est aussi quelque chose, pour le coup, qui existe encore. Même si la gauche a disparu, vous remarquerez que le bobo de gauche, lui, n'a pas du tout disparu. On ne sait pas pourquoi.
Oh, le bobo de gauche, c'est une sympathisante écolo.
Non, mais d'ailleurs, Mado, quand elle lui dit « mettez de droite, droite », c'était presque acceptable. Sa seule angoisse, c'est de devoir présenter un homme de droite à ses parents. Mais pour elle, ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça.
Dans la pièce, c'est très, très pris en compte que justement, déjà, avant
mais
même les élections de 2017...
Mais ça existe encore, pardon de vous interrompre, le fait d'avoir un peu de mal à présenter un type de droite à ses parents. Et là, je parle de la droite de gouvernement. Autant c'était vrai dans les années 70. Est-ce que c'est encore vrai, ça, aujourd'hui? La gauche, dans les années 70,
ça dépend
avait
de l'âge
de
des
mal,
parents.
Ne serait-ce qu'à dîner avec des gens de droite.
Oui, mais ça dépend de l'âge des parents qui sont restés quand même sur des schémas.
Mais bizarrement, quand on regarde, par exemple, les salons littéraires politiques du 19e, même début 20e, c'était beaucoup plus mélangé politiquement.
Ah oui.
Qu'après
la
Ve
République
60.
A radicalisé l'opposition.
Ah ouais. C'est vraiment avec des gens qui ne se parlaient plus parce que même à l'intérieur des familles, etc. Ouais. Alors que c'était c'est très étonnant.
Non, je pense que ça existe de moins en moins. Après, il y avait cette notion qui nous amusait bien, c'est-à-dire de montrer que pour quelqu'un de droite, présenter quelqu'un de gauche, ça va, c'est même un peu la classe.
Ça a toujours été comme ça, voilà. Puisque de toute façon, la droite, elle est habituée à ce que les gens de la culture, des arts, soient plutôt de gauche, donc elle s'en fout un peu.
Et que dans l'inverse, c'était plus compliqué. Donc on a joué là-dessus, voilà. Mais surtout, c'était le fait de ne pas être d'accord. La pièce joue sur la notion de acceptable ou pas acceptable. Justement, de à quel moment on dit on arrête de parler, on n'arrête pas de parler, est-ce qu'on peut parler avec ça et pourquoi on ne peut pas? Et si on dit non, pourquoi pas juste non?
Mais comment expliquez-vous que la gauche, elle, soit sectaire ? Je parle de la gauche, du centre-gauche, des gens, des sympathisants du Parti Socialiste. Elle a l'air, d'après ce que vous dites, elle a l'air de l'avoir toujours été.
Elle a de moins en moins la possibilité de l'être, d'ailleurs. C'est la gauche d'il y a quelques années qui était comme ça un peu aujourd'hui. On voit bien que...
Ils sont toujours sectaires, quand même.
C'est plus compliqué.
Ils sont moins nombreux.
C'est sûr.
Ils sont moins nombreux, on les entend moins, quand même. On les entend un peu moins.
Parce qu'il y avait quelque chose de... Ils revendiquaient quelque part quelque chose de moral.
Oui, exactement.
Donc forcément, quand on va sur ce terrain-là, à un moment donné, il y a ça. Alors que ce n'était pas le cas de l'autre côté, qui revendiquait quelque chose de réaliste, de concret, tout ça. Donc c'est à cause de leur revendication. Ce qu'ils voulaient être les emmenait automatiquement là-dedans.
Oui, parce que c'est quelque chose depuis... Moi, je me souviens quand Sartre et Aron se fâchent, après avoir été très bons copains, parce que Sartre trouve que Aron est de droite, c'est Sartre qui ne veut plus aller au cinéma avec Aron.
Oui, c'est exemple. À cet endroit-là.
Ça, c'est typiquement de gauche. Jamais un type de droite n'irait plus au cinéma avec son copain de gauche. Oui.
Non, parce qu'il ne positionne pas cet endroit, l'endroit de la morale, qui, à un moment donné, fait que non, parce que ce n'est pas moral. C'est pour ça que, moi, ça m'a amusé. Ça m'a amusé de rentrer dans cet endroit-là, avec ces personnages-là, et de les mettre au fond de leurs propres contradictions. Et que, d'ailleurs, Mado, donc la jeune fille bobo de gauche qui est sur le point de quitter le pays si l'extrême droite passe, sa meilleure amie est quelqu'un qui ne va pas aller faire barrage à l'extrême droite, parce qu'elle est tellement à gauche qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas faire barrage. Donc, c'est que mettre les personnages dans des positions intenables et compliquées. C'était ça qui était passionnant, c'était de voir, OK, mais si on additionne les situations, tu fais comment ? Tu parles avec qui ?
Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport à tout ça, c'est surtout une pièce sur la conviction en elle-même. Parce que Mado, au départ, elle n'a pas de conviction politique. Elle en a une, mais plutôt culturelle et plutôt dans son environnement. Et même la façon d'en aborder Andrea, mon personnage d'extrême-gauche, moi qui ne suis pas très politisée, qui ne suis pas très féministe, pour aller chercher... Pour travailler ce rôle, il a fallu chercher une conviction forte. Ça a créé chez moi même un intérêt plus profond pour la politique. Et tout d'un coup, on est parti tous les soirs, on partait défendre quelque chose. Parce que quand même, le message de la fin, on est tous d'accord dessus. Et je pense que c'est vraiment un spectacle sur la conviction en elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, Mado découvre sa conviction profonde à finalement rester ou pas. Pas tout dire avec Alexandre.
C'est depuis que vous portez des croix
en
boucle d'oreille.
Alors tout le monde pense que
ce sont des dagues.
Ce sont des dagues, exactement. D'accord. Mais je sais que ça fait très croire.
Ah, ces aristocrates.
C'est fou. Hein. Par contre, merde, ma chevalière, je l'ai pas remise après ma douche. Je suis emmerdée.
Toi, t'as la tienne, j'espère.
Thibault, non, moi, j'en ai plus. Moi.
Vous n'avez plus rien ? Vous, la famille remonte aux croisades. Ouais. La mienne aussi, paraît-il, mais on en a perdu la trace. <C'est différent. rire> On ne sait pas du tout ce qu'ils faisaient à ce moment-là, ni dans quel camp ils étaient.
Ben voilà.
vous savez précisément dans quel... ouais. qui c'était, où il habitait et ce qu'il a fait. Ça doit être bizarre. Non.
C'était... Je suis né dedans, alors vous savez, c'est toujours pareil, quand on est dans quelque chose, on ne trouve pas ça bizarre. Ça peut être un peu pesant, mais bon, maintenant, ça y est, j'ai dépassé un peu tout ce truc-là, quoi.
Vous avez écrit et publié un livre récemment, Thibault de Montalembert, sur votre amour des livres, mais aussi votre intérêt pour les religions. Vous racontez dedans à quel point vous êtes allé un peu comme, j'en parlais avec Salomé avant qu'on entre dans ce café, sa conversion au catholicisme. Vous avez été chercher des réponses un peu dans toutes les religions.
Dans toutes les religions.
Comment s'appelle le livre d'ailleurs? Il est sorti en septembre.
Et le Verbe se fait chair, c'est sorti chez l'Observatoire. Et oui, je suis un peu allé un peu partout. J'ai commencé par la mienne, enfin celle qu'on m'a donnée à la naissance, qui était le catholicisme. Donc j'ai été un peu chez les trappistes, voir un peu comment ça se passait. Ça manquait un peu de femmes, donc je suis pas resté très longtemps. Et puis après, cette question de... Alors, au début, c'était du religieux, mais c'est plus de la spiritualité que de la religion, finalement. M'a amené à aller chercher et à aller questionner un peu tout le monde, oui. Et me rendre compte qu'à un certain endroit, c'est ça qui me fascine et qui me passionne, c'est que ce soit des mystiques musulmans, orthodoxes, bouddhistes ou autres, ils parlent de la même chose. Quand ils sont à un certain niveau, Maître Eckhart, ils disent les mêmes choses, en dehors de leurs églises respectives.
Vous qui vous intéressez tellement à la politique, Salomé Lelouch, comment vous expliquez que quand j'étais adolescent, on rigolait quand on parlait de religion et on était très sérieux quand on parlait de politique. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse.
C'est,
hein.
C'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. C'est très juste. Même moi, quand j'étais plus jeune, c'était le cas.
Et alors, est-ce que c'est un progrès qu'aujourd'hui, on prenne si au sérieux la religion et si peu au sérieux la politique ?
En fait, il y a quelque chose qui est... Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais sur le fait que j'avais vraiment l'impression qu'on était une génération qui vivait rien. Voilà, que nos grands-parents avaient la Seconde Guerre mondiale, nos parents mai 68, qu'ils avaient tous eu des combats à mener. Et nous, on était là, ouais, super, la vache folle. Bon, bah, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner le monde. Donc, je me demande aussi dans quelle mesure, quand à un moment donné, on s'est retrouvé dans un pays où les choses allaient plutôt pas si mal. Il y a eu un moment comme ça où nous, on s'est sentis jeunes et avec aucune conviction à porter. Il n'y avait rien à faire ici. D'ailleurs, on partait à l'autre bout du monde quand on avait envie de sauver le monde et de faire de l'humanitaire. À quel moment il n'y a pas eu quelque chose où on a redramatisé ça de façon à re-être au centre de quelque chose, parce qu'on a chaque génération a envie aussi de porter.
Maintenant, il y a les gilets jaunes.
Ah, ça y est, c'est sûr. Et d'autres. Et bien
indépendamment
avant.
Des gilets jaunes, je pense que ce qui nous arrive sur la tronche dans les 10 prochaines années, Ça va donner de quoi défendre et de quoi
avoir les convictions. On est passé en 15 ans de nous on n'a rien à défendre, à ok, nous on est peut-être la dernière génération du monde et c'est peut-être la fin du monde et c'est pas sûr que nos enfants aient de l'eau dans 50 ans et c'est le plus gros défi de l'humanité. Donc c'est vrai que ça a été, il y a une espèce d'accélération là-dessus très forte. Je pense que ça participe au changement de point de vue et au changement d'humour sur la politique.
Europe 1. Ben, on va vous laisser là, Thibaut de Montalembert et Ludivine de Chastenay. On va continuer notre balade vers le Théâtre Le Pic, votre théâtre. Salomé Lelouch, il est un peu plus au nord. C'est le théâtre le plus haut de Paris.
Tout à fait, c'est le plus haut de Paris.
Il est à Montmartre. Merci d'avoir été là.
Merci
et on
beaucoup.
Se retrouve, nous, juste après les infos.
Europe 1. En balade avec Salomé Lelouch, Frédéric Taddeï.
Nous voilà de retour avec Salomé Lelouch. Nous sommes avenue Junot. Nous montons vers le théâtre Le Pic qu'elle dirige depuis 15 ans. Cette avenue Junot doit vous être très familière. Salomé Lelouch, c'est une des plus belles avenues de Paris. Elle monte comme ça vers chez vous.
Tout à fait. Et en même temps, si je suis très honnête, je la prends assez peu parce que moi, je monte par la rue Le Pic, qui est beaucoup plus parisienne, commerçante et vivante. Mais je la trouve très belle. Mais...
L'avenue Junot est une avenue historique. Nombre d'artistes, depuis Tristan Tzara jusqu'à Jean Paul, Louis-Ferdinand Céline, Marcel Aimé ont habité là ou juste à côté.
Ah bah le quartier est comme ça. D'ailleurs, on a l'impression de rentrer dans un décor de cinéma.
Oui,
là, on
passe. Maisons magnifiques.
Ça n'a pas changé depuis des centaines d'années.
Il y a toujours autant d'acteurs qui habitent ici.
Il y a beaucoup d'acteurs qui habitent ici. Il y a beaucoup d'artistes, toujours des peintres, toujours cette ambiance. Non, Montmartre est resté Montmartre, ça c'est sûr.
Et ça n'est pas trop touristique. On a l'impression que les touristes fréquentent peu l'avenue Junot. Ils sont plus nombreux rue Le Pic, justement. Ils vont à Montmartre.
Mais non, c'est les Parisiens qui sont justement rue Le Pic et les touristes descendent par l'avenue Junot ou remontent par l'avenue du Tertre. C'est une des raisons du changement de nom. C'était justement de vouloir dire que c'était le Montmartre des Parisiens et pas le Montmartre des touristes.
Le changement de nom auquel vous faites allusion, ben là, tiens, d'ailleurs, on a une plaque en hommage au dessinateur Francisque Poulbeau qui a vécu dans cette maison. Et il est mort le 16 septembre 1946. Les fameux dessins de Poulbeau qui ont symbolisé Paris, eux aussi.
Stranger beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart, don't let your heart catch on fire.
Donc le changement de nom auquel vous faisiez allusion, c'est celui de votre théâtre, qui était le théâtre de votre père, Claude Lelouch. Il l'avait baptisé le Ciné 13 Théâtre. Et vous le dirigez depuis 15 ans, mais vous en êtes la propriétaire depuis plus récemment. Vous lui avez racheté et vous l'avez débaptisé.
Oui, alors tout ça, en fait, c'est plus un retour aux sources. Je suis très, très... j'adore les racines, savoir d'où viennent les choses, tout ça. Donc le Ciné 13, en vrai, c'est l'ancien théâtre du Tertre qui était dans le restaurant à côté, chez Graziano, au lieu de...
Du Paris nocturne.
Du Paris à une époque...
Restaurant italien très célèbre.
Voilà. Et donc, quand il a été détruit, ce théâtre, vous savez, à Paris, on n'a pas le droit de détruire un théâtre. C'est complètement interdit.
Ah non, c'est interdit.
Il y a vraiment un arrêté de la préfecture qui interdit ça.
Il y en a plein qui a été détruit depuis
et reconstruit. Non.
Ah, toujours reconstruit.
Non, vraiment, toujours reconstruit. Il fallait reconstruire une salle dans le pâté de maison d'au moins une centaine de places. C'est à ce moment-là que mon père qui était en train de visiter pour acheter un appartement dans le coin, on lui a dit, bah voilà, là, ici, si vous vous engagez à reconstruire une salle de spectacle, voilà, ce sera, on vous laisse le faire. Lui s'est dit, moi, le théâtre, j'en ai rien à faire, c'est pas mon métier. Il a construit une salle de cinéma qui devait faire théâtre quelques jours dans l'année. C'est pour ça que le Ciné 13, qui porte le nom de 13, parce que mon père, c'est son nom de fétiche, plus ciné parce que c'était un cinéma, est né. Il s'en a occupé pendant plusieurs années. Ça a été une salle de projection et d'avant-première assez connue. Et puis, moi, quand je l'ai repris, j'avais rien à faire dans le cinéma. Je voulais un théâtre. Je lui ai redonné son nom de théâtre. Mais au quotidien, j'avais que des jeunes compagnies parce que c'était quand même une salle de cinéma pas très adaptée pour être un théâtre. Et donc, quand je l'ai racheté, j'ai beaucoup hésité à débaptiser parce que forcément, le lien familial. Mais tous les gens me disaient toujours... je voyais bien que les gens disaient oui, le théâtre 13 ou ton ciné 13 ou ton théâtre 13. Enfin bref, même
alors
les gens.
Alors, il y a un autre théâtre 13 voilà. Qui est dans le 13e.
Et là, ça m'a, en faisant les travaux, en le transformant vraiment physiquement en théâtre, et suite à un coup de fil de Catherine Arditi, qui est quand même quelqu'un à la fois de proche de moi et du métier, qui me dit oui, ton théâtre 13. Je me dis bon, bah, si même quelqu'un de la famille, au bout de 15 ans, est incapable de dire le nom de ce théâtre, c'est qu'il faut changer.
Il faut dire que c'est la sœur de Pierre Arditi qui est votre beau-père.
Voilà, tout à fait. Et du coup, là, je me suis dit, eh ben, le Pic, c'est la rue la plus proche. Je ne voulais pas Girardon, j'avais peur qu'on dise Annie Girardot. Je ne voulais pas Juno, j'avais peur qu'on dise Junio.
Puisque Arthur Junio, c'était votre associé voilà. Hein, dans l'histoire, et le fils coup, de Gérard.
Tout à fait. Donc, du coup, le Pic, parce que pour moi, c'est la rue de Montmartre des Parisiens et non pas qui ne fait pas référence.
Alors, ici à ce carrefour, donc entre la rue Girardot et l'avenue Junot, où se trouve le théâtre Le Pic, ou un avenue Junot. On a là devant nous le 4 rue Girardot, où habitait Louis-Ferdinand Céline. On a juste en face, au 2 avenue Junot, l'atelier de Jean Paul, son copain. Un peu plus loin habitait Marcel Aimé. Il y a d'ailleurs une statue du passe-muraille que l'on voit d'ici. Hein.
De Jean Cocteau. Ouais, voilà, c'est moi qui fais maintenant. De Jean Marais.
C'est Jean Marais qui l'a sculpté. Jean Marais que moi, j'ai connu rue Le Pic, d'ailleurs. Il était là tout le temps. Il habitait ici, Jean Marais. Et qui était sculpteur à la fin de sa vie et plus du tout comédien. Voilà, on est en face de nous, il y a la place Marcel Aimé. C'est un endroit culturellement riche.
Voilà, il faut venir, ne serait-ce que pour voir tout ça. Et puis ensuite, oh, vous rentrez, vous achetez une place de théâtre et vous descendez.
Il faut dire que ce théâtre, Théâtre Le Pic, c'est le plus haut de Paris. Mais en plus, il est très spécial puisqu'il est tout en sous-sol. En fait, au rez-de-chaussée, là, il n'y a rien presque. Il y a la caisse, c'est tout.
Il n'y a rien, il y a 15 mètres carrés au rez-de-chaussée qui est la caisse.
Après, il faut descendre.
Après, il faut descendre, c'est une aventure.
Et bien, c'est ce qu'on va faire.
En plus d'être comédienne, metteur en scène et productrice, Salomé Lelouch est aussi à la tête d'un théâtre du 18e arrondissement. On la retrouve d'ailleurs dedans avec Frédéric Taddeï.
Et nous voilà à l'intérieur du Théâtre Le Pic avec son décor des années 20. C'est votre père qui l'avait redécoré pour le tournage d'Edith et Marcel, dans lequel votre maman, Evelyne Bouygues, jouait Edith Piaf.
Tout à fait, c'est Jacques Buffenoir qui en a fait la décoration pour le film. Et la salle était censée représenter le Versailles
là,
à New York.
Le bar.
Ici, c'était censé être le Club des Cinq, là où se sont rencontrés Cerdan et Piaf à Paris, qui était une boîte de nuit à l'époque. Mais ça, je ne vous apprends rien, je pense.
Si, je l'ignorais. Là, c'est très art déco, comme on dit.
Donc j'ai gardé, en faisant les travaux, on a tout refait, le salon, on a rajouté de l'éclairage et tout, on a refait les marches, mais j'ai gardé le jour des acteurs en stage, de mise en scène. Bah, le théâtre abrite des stages, des écoles de théâtre dans la journée, donc il y a de la vie, c'est ça qui est sympathique.
Et là aussi, vous avez fait une programmation, c'est un peu un multiplex du théâtre, on joue selon les heures et les jours, le programme change, comme souvent dans les théâtres à Paris aujourd'hui.
Alors, ce n'est pas tout à fait une programmation comme Avignon avec 150 spectacles par jour,
bonjour.
J'étais un peu compte. Voilà, ils sont en pause du coup, pause du stage de mise en scène.
Là, nous sommes dans la salle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un stage
Il y a un stage en ce moment d'une semaine, metteur en scène qui donne des stages...
Et donc, la petite salle, elle est petite, en même temps, elle est grande. Il y a quoi, 150 places?
Voilà, maintenant, il y a 150. Il y en avait 100 avant. Et j'ai
des fauteuils en velours rouge, comme toujours. Autrefois, c'était considéré comme la salle de théâtre la plus confortable de Paris, parce qu'il y avait des fauteuils club comme Avenue Hoche ou à l'autre Ciné 13.
Tout à fait. Et ça, c'est complètement fini. Il ne faut plus du tout que les spectateurs s'endorment quand ils regardent une pièce de théâtre. Donc, ils seront toujours très confortablement installés. Mais ils ne pourront plus s'affaler devant les acteurs.
Oui, il faut dire que c'était une salle de
responsable.
Cinéma. C'était une salle de cinéma.
Voilà, donc, c'était le truc, la transformer en salle de théâtre, agrandir le plateau, faire en sorte que voilà, on puisse y accueillir de vrais spectacles de théâtre.
Et alors, on parlait d'Alexis Michalik, mais il me semble qu'il a débuté ici, non ? Sa première, toute première pièce sur Roméo et Juliette, c'était pas ici ?
Si, mais c'était même avant sa première pièce. C'était la Mégère, à peu près apprivoisée, voilà, qu'on avait repérée au Festival d'Avignon, qui a joué ici. Ensuite, il a créé Roméo et Juliette. Ce n'était pas des pièces qu'il écrivait, c'était des mises en scène qui faisaient des adaptations de Shakespeare assez brillantes. Et puis un jour, lors d'un festival qu'on avait là, Nicolas Bedos devait écrire, c'était que de la création, Nicolas Bedos devait nous écrire une pièce. Et 3 semaines avant la première, il a appelé Benjamin Belcourt, qui produisait le festival, en disant « Je suis vraiment désolé, je vais vous planter ». Et là, on a appelé Alexis en panique en disant « Tu peux écrire un truc pendant 3 semaines ». Et il a écrit les 50 premières minutes du Porteur d'Histoire.
Voilà, donc il a eu d'énormes succès
et qui a lancé encore carrière, aujourd'hui, ouais. Et qui a lancé complètement sa carrière. Donc oui, ça a commencé ici, mais pas que lui. Hein. Il y a Gonzalez ici qui a aussi fait le concert.
Oui, Chili Gonzalez, que je connais. Le plus long de l'histoire, c'était ici.
C'était
ça a duré combien, 27 heures
C'était 3 jours, donc non, un peu plus que 27 heures.
Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps une expérience de théâtre immersif qui était ici. Comment s'appelle cette compagnie ?
C'était Smokering, la compagnie de Sébastien Bonnabel. C'est eux qui sont d'ailleurs en stage.
Ah bah oui.
Et qui donc ils nous ont été piqués parce que tout nous est piqué. Comme on est un petit lieu, une fois qu'il y a du succès, bim, ils vont dans un grand théâtre. Donc là, ils sont au Théâtre Michel avec Smokering. En revanche, du coup, il y a eu hier soir la première de Cyrano qui montait ici en théâtre immersif et qui se passe dans les coulisses et dans la salle du théâtre. Ils montent Cyrano et en même temps, il y a toutes les histoires intimes des acteurs pendant la...
En même temps, j'ai l'impression que les Français n'ont pas encore bien compris le théâtre immersif, le vrai théâtre immersif. Les acteurs se mêlent aux spectateurs, mais il y a une vraie raison pour que les spectateurs soient là. Très souvent, les Français, on met les spectateurs au milieu des acteurs, mais il n'y a aucune raison que l'on soit là. Est-ce qu'il y a une vraie raison ?
Là, oui, parce qu'il y a un moment donné où on dit aux gens, voilà, vous pouvez aller où vous voulez dans le théâtre, vous approcher comme vous voulez des acteurs ou pas. Et en fonction du choix que fait le spectateur d'aller dans telle ou telle pièce, il entend les acteurs qui discutent entre eux et il a des bribes du spectacle que les autres n'ont pas. Donc c'est un vrai choix qu'il fait, un peu, alors très différemment de ce qu'ils ont fait. Moi j'adore cette série là où on peut choisir son épisode. Vous savez, j'ai évidemment un trou là maintenant tout de suite sur le nom de la série.
C'est Black Mirror.
Voilà, Black Mirror.
Sur Netflix.
Voilà. Et donc c'est un peu ce principe là, sauf que c'est dans le théâtre. Et puis si vous avez raté la scène, il faut revenir un autre jour. Vous ne pouvez pas cliquer en arrière. Mais voilà, il y a quand même ça et ça se justifie. Et Sébastien Bonnabel est très très précurseur de ce théâtre. Sa compagnie aussi, c'est vraiment intéressant.
Vous avez monté vos propres spectacles ici, vous en avez profité, c'est bien quand on a un théâtre, quand on le dirige. Mais en même temps, on est responsable de la caisse, alors peut-être que ça dissuade.
Sincèrement, je l'ai assez peu fait. J'ai monté un premier spectacle pour enfants et ensuite ma toute première pièce, Qu'est-ce qu'on attend ici en 2009. Et après, j'ai arrêté parce que c'est un peu désagréable d'avoir l'impression de devoir tout faire. Vous êtes ici, on vient vous chercher pour tout. Les toilettes sont bouchées, on vient vous chercher. Il y a un problème à la caisse, on vient vous chercher. Internet ne marche plus, on vient vous chercher. Pour créer, c'est un enfer. C'est très dur d'avoir toutes les casquettes. Donc, je préfère créer dans d'autres théâtres où on me laisse bien tranquille comme metteur en scène.
Comme au Théâtre de l'Œuvre.
Voilà, comme au Théâtre de l'Œuvre.
C'est François-Xavier de Maison qu'on a vu tout à l'heure.
Qu'on appelle pour les problèmes de toilettes et de plomberie. Et ici, quand je suis là, bah, je règle les problèmes techniques des autres.
Et alors, moi, je me souviens être venu ici avec votre père, Claude Lelouch, qui m'avait emmené dans un petit local en sous-sol où il était très content. Il m'avait montré, il avait toutes les pellicules de ses films. Et il me disait, je suis le seul réalisateur à avoir tous mes films. Et c'est vrai, comme lui, il était toujours producteur. Alors, j'avais dit que moi aussi, j'avais tous ses films et que ça prenait moins de place. Ça tenait dans une boîte à chaussures, en DVD. Mais lui, il avait toutes ses boîtes. Alors, est-ce qu'elles sont encore là ?
Alors, elles ne sont plus là. Je vais vous emmener. Vous allez voir à quoi ça ressemble maintenant. On a fait une sorte de demolition party. Il en a récupéré beaucoup. Et après, on en a offert plein à tous les gens qui étaient là depuis 15 ans et qui connaissaient le lieu et qui adoraient.
Attendez, vous n'avez pas distribué les films de Claude Lelouch ?
On en a distribué quelques-uns. Ce qu'il a pas récupéré, on les a distribués.
Les pellicules ?
Ouais. C'est fou. Hein, là.
C'est dingue.
Ah, c'était très gai.
Et il était comme à la prunelle de ses yeux. Il était tellement fier quand il
Mais il les a toujours. Il les a toujours. Il les a en double. Et
ah oui,
il y en a
voilà.
Beaucoup qui sont partis chez
copies.
Éclair, tout c'est ça. Oui, oui. Mais c'est toujours des copies. Ouais. De toute façon, il n'y a pas un original de vos films.
Il y a,
plus, puis, voilà, donc il y a à peu près 500 copies de chaque film. Donc on avait 2 secondes pour voir venir. Et c'était fou de voir à quel point oui, les gens qui avaient travaillé ici pendant 15 ans comme acteurs et qui n'étaient jamais rentrés dans cette pièce ou que quand ils y rentraient, ils regardaient les copies comme ça, d'en avoir une, ils étaient tellement contents. C'était chouette que l'objet, enfin, dans notre monde à nous, vraiment, les films, c'est plus que sur
À
Netflix.
À l'époque,
Internet.
Ça prenait vraiment de la place. Ouais, hein, c'était
et
des grosses
boîtes.
C'était
un bel objet et c'était chouette.
Des grosses
chouette.
Boîtes en métal ronde dans lesquelles il y avait toutes les... Ça, c'était impressionnant.
Mais pour des raisons de sécurité, c'est pas génial de garder des bobines dans un théâtre devant un TGBT non plus.
Oui, ça peut prendre feu, vous voulez dire.
Voilà.
Bon, ben, on va descendre, vous allez me montrer ce qu'il y a à la place.
Oui.
Et puis, ben, le temps de descendre, on va écouter... ça, c'est ma chanson préférée en ce moment, c'est Paris Blues par Tony Middleton. C'était Paris Blues, chanté par Tony Middleton en 1967.
Frédéric Taddeï, en balade avec Salomé Lelouch sur Europe 1.
On traverse toutes sortes de salles, de petits salons avec Salomé Lelouch. Dans le théâtre Le Pic, ça descend toujours.
C'est marches. Là qu'on a le théâtre immersif, d'ailleurs, dans tous ces petits salons où les scènes se jouent diverses et variées. Les toilettes que je pourrais vous faire visiter, parce que c'est une des choses dont je suis le plus fière.
Les toilettes ?
Oui, on ne se rend pas compte comme ça, mais quand on fait des travaux, c'est le plus long, le plus coûteux. Voilà, donc je suis très fière. Maintenant, on peut avoir une habilleuse et on peut
Il y a des machines à laver.
Tout faire. Il y a une douche pour les acteurs.
Oui, ça c'est vraiment embourgeoisé. Hein.
Ah ben c'est ça, c'est devenu complètement bourgeois.
Là, il y a ce qui ressemble à une salle de danse.
Ça, c'est les anciennes loges et c'est devenu une salle de répétition.
Il y a des miroirs sur les murs.
Et là, on rentre dans la salle dont vous vous souvenez.
La fameuse où Claude Lelouch entreposait les bobines de ses films.
La fameuse qui
et
est
c'était
devenue...
Ah ouais, oui, je me souviens très bien. Voilà. Je me souviens de la bobine de 13 jours en France, son film sur les Jeux Olympiques de Grenoble. Elle était là.
Ouais, ici, tout ça, c'était les bobines. Voilà. C'est devenu des loges pour
là,
les comédiens.
Loges, c'est bien éclairé.
Voilà, on a tout refait. Maintenant, il y a des loges qui peuvent être fermées ou ouvertes.
Ce ne sont pas des loges très, très cossues, comme dans certains théâtres.
Comment là, ça, pas cossu? Vous êtes fous, quoi?
Non,
c'est hyper cossu.
Là, ça a l'air plus... on sent...
C'est un peu industriel, mais ça fait partie du charme et c'est un choix qu'on a fait. Et effectivement, en fonction des spectacles...
Ça
on
fait
peut...
jeune troupe.
Bah.
Non, mais si vous dites à votre beau-père, Pierre Arditi, qui va devoir se maquiller là tous les soirs, dans quelques jours, à mon avis, il vous dit non. Non.
Pas du tout, il a hâte d'ailleurs, il se demande pourquoi il ne joue pas ici tous les soirs, il ne comprend pas du tout pourquoi il va le faire dans des tas de vie sans place. Non, si jamais un jour je devais accueillir un acteur comme ça, on a la grande pièce à côté qu'on peut complètement privatiser et transformer en loge. Après, il se trouve que les acteurs préfèrent être ensemble et qu'ils sont toujours ensemble.
Oui, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont un esprit de troupe encore.
Ah non, je vous assure, vous avez une image déformée des acteurs.
Peut-être, oui. En tout cas, là, c'est bien éclairé, c'est agréable.
Il y a un coin salon là-bas pour boire du thé, du café, faire des italiennes.
Et alors, vous, est-ce que vous avez le trac avant qu'on... non plus en tant que comédienne, mais en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène pour Politiquement Correct. C'est une pièce qui a déjà vécu une partie de sa vie, mais qui va recommencer là au Théâtre de l'Œuvre à partir du 22 février. Vous avez le trac ?
J'ai le trac. Et pour Politiquement Correct, je pense que j'ai eu encore plus le trac parce qu'il y avait un trac artistique et puis il y avait un trac que je ne connaissais pas qui était un trac politique. C'est-à-dire comment les gens vont percevoir ça. Comme, ouais, on sentait qu'on mettait le doigt et on m'avait tellement dit... T'es complètement folle d'écrire une pièce sur l'extrême droite. T'es complètement folle de mettre
sans en dire du mal. Surtout.
Non, mais en tout cas, en étant effectivement dans cette espèce de théâtralité qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'on entretient une certaine ambiguïté, mais on le fait pour le bien du spectacle, de la dramaturgie, et puis parce que c'est aussi ce que j'avais envie de raconter de bonne foi, c'est-à-dire de bonne foi. Et si je voilà, si je tombe amoureuse de quelqu'un qui pense ça, je fais quoi? Je m'arrête? Je me dis, comme on disait tout à l'heure, par morale, tout de suite je dis non? Ou alors je veux comprendre pourquoi je dis non? D'ailleurs, moi, je veux comprendre pourquoi on m'a dit que c'était impossible, l'extrême droite. Comment tout ça a changé en 2002? La question se serait même pas posée. En 2017, c'était différent. Quand on a créé la pièce, on avait encore des gens qui nous disaient, mais ça n'arrivera jamais de toute façon. Et maintenant, c'est limite si on nous dit pas, oui, bah évidemment, de toute façon, ils vont gagner dans 2 ou 3 ans. Donc en fait, voilà, il y a le regard des gens, et même ça m'intéresse, comment sur un même texte, le regard a changé, comment c'est perçu à l'étranger, les droits de la pièce ont été pris à l'étranger, donc on voit dans les adaptations comment ils perçoivent ça. Voilà, je trouve ça passionnant. Après, évidemment, en plus, dans une société où toute phrase peut partir en 2 secondes, un avis peut être complètement interprété, coupé, pas au bon moment, je pense que je ferai aussi une pièce là-dessus à un moment donné. Voilà, je trouve ça passionnant, mais j'ai eu un trac qui n'était pas que artistique, puisque je savais qu'on n'allait pas juger que si j'écrivais bien. C'est pas...
Et alors, votre track aujourd'hui porte plus que sur l'artistique ou encore un peu sur la politique?
Non, je suis évidemment rassurée sur... Enfin, rassurée sur la politique, c'est vraiment une phrase bizarre, ça, surtout sortie de son contexte. Non, il est encore double. Il est double parce qu'aussi, il va y avoir les élections européennes, que moi, je n'aborde pas du tout le thème de l'Europe dans le spectacle, parce que je me souviens qu'à l'époque, tout le monde disait, mais attends, à un moment donné, vous parlez de ça, il faut parler de l'Europe, ils ne sont pas d'accord avec nous sur l'Europe. Et je disais, j'entends, mais en vrai, on parle d'une histoire d'amour. Et moi, je pense que je peux complètement avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui est pour la sortie de l'Europe, alors que moi, je suis très pro-européenne. Ce n'est pas rédhibitoire. Donc la question, c'était à quel endroit c'est rédhibitoire. Et ça, très clairement, ça ne l'était pas. Alors peut-être que ça peut le devenir plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais volontairement pas du tout abordé l'Europe, alors que les migrants complètement, enfin voilà, les bateaux, tout ça, alors qu'il n'y avait pas encore les Aquarius et tout ça, mais c'est très très présent dans le spectacle. L'Europe me semblait pas un endroit rédhibitoire où on dit, lui, je vais pas avoir une histoire d'amour avec lui parce qu'on n'est pas d'accord sur l'Europe.
Il faudrait savoir d'ailleurs si en Angleterre,
Le Brexit, les
anti-Brexit peuvent avoir une histoire d'amour avec les pro-Brexit.
Écoutez, je vous le dirai dès que j'aurai reçu l'adaptation anglaise de la pièce qui est faite sous cet angle-là. En Espagne, je sais qu'ils ont fait avec la Catalogne. Et en Allemagne, ils se sont dit, on va garder la pièce comme en France. Là, on ne va pas bouger, on va rester, c'est pareil, il n'y a rien qui change.
Je me souviens de vous, dans les années 2000, qui jouiez beaucoup au poker, vous avez arrêté?
Je me demandais si vous alliez faire l'impasse ou pas sur ça. Je me suis dit, il a peut-être complètement oublié cette émission.
Vous étiez venu effectivement parler de poker dans Ce soir ou jamais, que j'animais à l'époque. Vous jouez toujours au poker?
Non, maintenant je produis, c'est l'autre façon de jouer au poker. En vrai, j'ai joué au poker à un moment où j'ai donc... Maintenant, vous le savez, arrêtez d'être comédienne. Je ne gagnais plus ma vie. J'ai joué au poker pour gagner ma vie. J'ai vraiment gagné ma vie avec ça quelques années.
Ce que vous aviez raconté à ce moment-là.
Avec cet argent, j'ai produit mes premières pièces. Et puis, à un moment donné, le temps que ça prend, en fait, de jouer au poker, et puis quand même, cette petite chose où on veut toujours jouer avec les meilleurs joueurs, et à un moment donné, on ne va pas se mentir, je n'avais pas du tout les moyens de jouer avec ces joueurs-là. Donc, je me suis mis en danger. Et on peut être une bonne joueuse et se mettre vraiment en danger financièrement quand on joue au-dessus de ses moyens. Voilà, j'ai passé une nuit blanche terrible et assez dure au cours de laquelle j'ai eu des dettes et je me suis dit comment je vais m'en sortir, ça a été très très compliqué. À partir de là, j'ai arrêté, je me suis fait interdire au ministère de l'Intérieur, je ne peux plus mettre un pied dans un casino sauf si j'écris une lettre recommandée une fois par an pendant un mois en février.
Mais vous pouvez continuer de jouer au poker avec des amis chez eux.
Oui, mais
c'est souvent là qu'on joue le plus.
Oui, mais c'est là qu'on joue le plus. Mais là, on ne se met pas en danger. Et puis, c'est des amis. Vous n'avez pas déjà payé. Vous pouvez enfin, il y a tout un truc. Et puis, vos amis ne sont pas là pour vous plumer. Au bout d'un moment, ils vous disent arrête. Et puis, vraiment, vos amis ont souvent en plus à peu près à ce moment-là les mêmes moyens que vous. Donc, c'était avec des. Moi, je me mettais en danger avec des gens que je ne connaissais pas, des inconnus. Et il y avait. Voilà, c'était vraiment. À l'époque, ce n'était pas la mode. Il y avait très peu de femmes dans les cercles. On parle de ça il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je pense que ce plaisir de jouer, de parier, de dire on va voir si c'est un pic ou un trèfle là qui sort et ça va tout changer, c'est de produire un spectacle en se disant j'y vais sans aide, j'y vais un peu à l'aveugle, j'y vais à la hussarde et puis on va bien voir si c'est un succès ou pas. J'ai réussi dans ma vie professionnelle à trouver l'adrénaline du poker avec la production.
Qu'est-ce que vous nous recommandez de venir voir là au Théâtre Le Pic? De quoi êtes-vous le plus fier?
Ah non, mais je suis fière de tout ce que j'ai au théâtre Le Pic, mais effectivement, il y a ce Cyrano déambulatoire que je recommande les dimanches soirs. Et là, on a deux spectacles qui commencent, Sagan par Sagan, qui était au Lucernaire avant.
Ça, c'est avec Caroline Loeb.
Tout à fait, voilà, mis en scène par Alex Lutz, qui reprend pour 20 dates exceptionnelles. Et Rémi Larousse, qui est un magicien, ça c'est la touche Arthur Junio, à 19h,
c'est un spectacle familial. Arthur Junio, qui est
familial, toujours notre associé. Enfin, tout à fait, ouais, on travaille ensemble et qui, du coup, produit ce spectacle qui est vraiment un petit bijou et qui est pour toute la famille et qui n'est pas du tout politique. Vous voyez, on n'est pas tout le temps dans la justice et tout, voilà, qui est très distrayant, assez bluffant. Et en plus, dans une salle comme ça, voir de la magie, c'est un peu plus bluffant même que dans un grand théâtre. On se dit, ah, il y a plein de trucs, on voit tout. Là, c'est vraiment, il n'y a rien. Donc, on se dit, mais comment il fait ? C'est bluffant.
Et puis, il y a Politiquement Correct, le retour, donc, le 22 février. À partir du 22 février.
Avec débat tous les jeudis à l'Ubu Café, après le spectacle avec les comédiens. Tout à fait. On attend les gens le jeudi.
Il y aura un débat après la pièce. Ouais.
Parce que les gens parlent, il y a naturellement, en sortant, les gens parlent, ils discutent très vite. C'est une pièce où les gens parlent et viennent nous parler. Donc là, on s'est dit, bon, on va l'organiser à l'Ubu Café, on vous attend.
C'est la mode d'organiser des débats en ce moment en France. Hein.
Voilà, bah, nous, on est à la mode.
C'est donc avec Thibaut de Montalembert, avec
Ludivine de Chastenay, Léonore Benheim, Samantha Markovitch, Frédéric Chevaux, Arnaud Schmitt, Arnaud Pfeiffer en alternance, Bertrand Combe.
Écrit et mis en scène par Salomé Lelouch. Merci de nous avoir emmenés en balade avec vous, Salomé. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
Merci.
Et j'en profite pour remercier le Théâtre de l'Œuvre, François-Xavier Demaison, le Peur Café et bien entendu le Théâtre Le Pic.
Merci à vous.
C'était Frédéric Taddeï que vous retrouvez dimanche prochain pour une nouvelle balade à 11h comme d'habitude. Et d'ailleurs, pour écouter celle-ci et les anciennes, rendez-vous sur europe1.fr. Dans un instant, ce sera le journal de la mi-journée, présenté aujourd'hui par François Geffrier. Alors restez avec nous, il n'est que 12h28.